Tout ça, c'est des histoires. Marie-France Dupré, sur Radio Grand Ciel. Ce garçon-là, il s'appelait Jean. C'est bien longtemps après qu'on l'a appelé Jean de Calais. Quand il était petit, il habitait dans un village à l'intérieur des terres avec ses parents. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient de quoi vivre. Et lui, quand il a grandi, il a appris le métier de charpentier. Il le faisait bien, son métier, et il l'aimait. Mais ce dont il rêvait, c'était de partir, d'aller jusqu'à la mer. Et là, d'être charpentier naval, de s'occuper des bateaux. Alors un jour, quand il a eu 20 ans, il a dit à ses parents, « Je vais partir. J'ai fait mon baluchon, je m'en vais. » Alors le père n'a rien dit, il est parti dans l'arrière-cuisine, il a bousculé un peu les bocaux, il a pris un sac qui était derrière, il a apporté, il a mis la main dedans, il a sorti 3 pièces d'or qu'il a données à son fils. « Tiens Jean, regarde, je les ai mises de côté pour toi, je savais bien que tu partirais. » Alors la mère, qui s'était retournée pour pas qu'on voie qu'elle avait les larmes aux yeux, elle est allée dans l'armoire de la cuisine et là, derrière, tout au fond, elle a pris une petite boîte en fer et dedans, elle a pris des pièces. Elle les a rapportées, elle les a données à Jean et lui a dit « Regarde, je les avais mises de côté pour toi. Moi aussi, je savais bien que tu allais partir. » Alors ils se sont serrés dans les bras l'un de l'autre, chacun leur tour. Et puis Jean, il a mis son baluchon sur son épaule et puis il est parti. Il s'est retourné une seule fois, quand il était tout au bout du chemin, le chemin qui menait à la maison. Il s'est retourné pour faire signe à ses parents. Et puis il a marché. Il a traversé un premier village, et dans ce village-là, tout le monde le connaissait. « Salut Jean !»« Salut Jean, salut !» Il a traversé le village, il est passé plus loin. Dans le deuxième village, il y avait bien 3 ou 4 personnes qui le connaissaient. « Salut Jean, tu t'en vas ?»« Salut !» Il a traversé le village et puis il est parti un peu plus loin. Quand il est arrivé dans le troisième village, là, plus personne le connaissait. Alors il a continué. Il est arrivé dans un quatrième village. Il est passé là sur le côté et il a vu un gros tas de fumier. Et puis au fur et à mesure qu'il approchait, il a vu une silhouette. Il a cru que c'était un animal. Mais non, c'était un homme. C'était un garçon qui était un petit peu plus jeune que lui peut-être. Il était là, jeté sur le tas de fumier. Alors Jean, il est entré dans le village et puis il a vu que l'auberge était ouverte. Alors il est rentré. Il s'est accoudé au bar, il a demandé une bière. Et puis il s'est tourné vers l'aubergiste et puis vers les gens qui étaient là. Il leur a dit « Mais qui est ce garçon là? Qui est sur le tas de fumier? Il est mort? Personne ne l'a enterré? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors l'aubergiste et puis les gens qui étaient attablés là, à rigoler, ils lui ont dit « Tu sais, c'est le fils des gueux là-bas. Tous ceux qui sont les gueux qui sont à l'autre bout du village, ils ont une maison, c'est même pas une maison. Le toit est en train de s'écrouler, la porte, on a l'impression que si on la pousse, elle va tomber. » Eh ben, ils avaient même pas de quoi enterrer leur fils. Alors on l'a jeté là sur le tas de fumier. Jean, il a rien dit. Il a fini sa bière, il est sorti de l'auberge. Il a suivi le chemin jusqu'au bout du village. Il n'a pas eu de mal à trouver la maison des gueux, comme ils disaient les autres. C'est vrai, le toit était tout percé, la porte, on avait peur de la pousser. Mais il a frappé un petit peu, doucement, pas trop fort. Et puis il est rentré et il les a vus là, tous les deux, les vieux. Ils étaient assis sur des chaises branlantes, ils disaient rien. Alors il a mis la main dans sa poche Il a sorti les 3 pièces d'or, il les a mises là sur la table. Et puis il s'est retourné, il a dit « C'est pour votre fils, c'est pour que vous puissiez l'enterrer. » Et puis il est parti. Il n'a rien demandé. Surtout pas qu'on lui dise merci. Il a continué son chemin, il a marché assez longtemps. Et il est arrivé, tout d'un coup, en haut. Il était un peu en hauteur, il a vu la mer. La mer qu'il avait rêvé de voir depuis tellement longtemps. Il a regardé longtemps. Elle n'était pas en colère ce jour-là, la mer. Les vagues n'étaient pas trop hautes. Mais elle faisait du bruit. Il a écouté, il a regardé. Et puis il a continué son chemin le long de la falaise. Il a vu des grandes maisons et des grands hangars avec plein de gens qui travaillaient dedans. Il s'est dit « c'est pas là que je veux travailler ». Il a continué, il est arrivé à presque la dernière maison, elle était jolie, et puis il y avait à côté un hangar plus petit. Et au bord du hangar, il y avait un homme qui était là, qui travaillait le bois. Il était en train de réparer un bateau. Alors il s'est approché, Jean. Il a dit « bonjour ». Et puis il a dit « moi aussi je suis charpentier ». Mais votre métier, je voudrais bien l'apprendre. Moi, je sais travailler le bois, mais je voudrais aussi construire et réparer des bateaux. Alors l'homme, il a levé le nez, il a regardé, il a dit « Toi, t'as une bonne tête. »« Ah, peut-être qu'on pourra faire affaire ensemble. »« Si tu veux, tu vas pouvoir travailler avec moi, et puis si je suis content de toi, ben tu resteras. » Et c'est comme ça que Jean, il s'est installé là, chez cet homme qui avait l'air si bon. Et puis il a travaillé. Il s'est appliqué tellement qu'il a vite appris le métier. Il était bien là, il était heureux. Et puis surtout, cet homme-là et sa femme, ils avaient une fille, elle s'appelait Amélie. Et Amélie, elle était belle. Elle était belle et puis elle était douce, douce. Et plus il la voyait, Jean, plus il se disait « qu'est-ce qu'elle est belle, Amélie, et qu'est-ce qu'elle est douce !» Le jour de la fête de la Saint-Jean, ils ont été danser avec les autres. Et tout le monde dansait. Et comme par hasard, cette soirée-là, la main d'Amélie, elle a presque pas quitté celle de Jean. Même quand ils ont sauté par-dessus le feu. Alors, à la fin de la nuit, le soleil était presque levé, ils ont quitté la fête, ils sont allés derrière les maisons, et puis là, ils se sont embrassés, et Jean a demandé à Amélie si elle serait d'accord pour qu'il aille demander sa main à son père. Amélie a dit oui, ils se sont encore embrassés. Et le lendemain, Jean a fait ce qu'il avait dit. Il est allé voir le père d'Amélie. Il a souri, le père d'Amélie, et il a dit « Je vais demander à la mère, mais je crois qu'elle sera d'accord. » C'est ce qu'il a fait, et il est revenu avec un grand sourire. Il a dit « D'accord, on peut fixer la date du mariage. » Et ils étaient heureux, et ils ont préparé le mariage. Amélie a fait sa robe, elle l'a fabriquée elle-même. Et ils ont commandé de quoi faire une superbe fête. Mais pendant ce temps-là, il y avait un garçon dans le village qui n'était pas très content. Il s'appelait Bertrand. Il les avait vus. Il avait tout deviné. Il n'était pas étonné quand on lui a parlé de la date du mariage. Sauf que lui, ce qu'il aurait aimé, c'est que ce soit lui qui se marie avec Amélie. Il avait bien essayé, mais elle, c'est comme si elle ne le voyait pas. Alors, dans les jours et les semaines qui ont précédé le mariage, il est devenu le meilleur ami de Jean. On les voyait souvent ensemble. Ils discutaient. Ils jouaient aux dés. Si bien que Jean, il a fini par demander à Bertrand s'il voulait bien dire un petit mot le jour du mariage. Bertrand, il a dit d'accord. Le matin du mariage est arrivé. Bertrand est passé, il a dit à Jean, « Tu sais, j'ai pensé à ce que j'allais dire tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre que ça te plaise. Est-ce que tu voudrais bien qu'on aille se promener tous les deux? Et puis, tu me dirais si ça te va. » « Oui, oui, ça va, » dit Jean. « Il n'y a pas de problème, j'ai plus qu'à enfiler mon pantalon et ma chemise et ça ira, j'en aurai pas pour longtemps. » D'accord. Alors, ils sont partis se promener tous les deux, le long de la falaise. Ils ont marché un petit moment. Et Bertrand disait à Jean ce qu'il voulait dire plus tard. Et puis à un moment, ils sont arrivés tout au bord de la falaise. À ce moment-là, Bertrand, il a pris Jean par les épaules et il l'a jeté en bas de la falaise. Jean a crié et Bertrand est parti en courant. Il a couru vers le village et il disait « Un homme à la mer, un homme à la mer !» Tout le monde est venu regarder au bord de la falaise, mais ils n'ont plus rien vu. Jean avait disparu. Et Amélie, elle a pleuré, elle a pleuré pendant des jours et des jours. Mais pendant ce temps-là, s'ils étaient retournés près de la falaise, ils se seraient rendus compte que peut-être plus loin, là-bas, loin, loin, loin déjà, il y avait un petit point noir. C'était Jean. Eh oui, la marée était haute quand il est tombé. Heureusement pour lui, il n'est pas tombé sur les rochers. Enfin, plus tard, il est tombé dans l'eau. Alors, le temps d'être un peu assommé et de reprendre connaissance, il était sorti de l'eau. Il a vu une planche, et puis il s'est accroché à cette planche, et cette planche, avec le courant, elle a dérivé, le temps que lui reprenne un peu ses esprits. Et la planche, elle s'est cassée sur des récifs. Alors, Jean, il s'est accroché à un rocher, et puis il s'est assis là. Il s'est hissé tant qu'il a pu, il s'est assis sur le rocher qui lui paraissait le plus plat. Et puis une fois qu'il était là, il s'est dit « Je vais mourir ». C'est sûr, la terre est trop loin. Et puis je vais mourir de faim. J'arriverai jamais à nager jusque là-bas. Il était en train de penser à ça quand il a vu arriver un énorme corbeau. Il avait des grandes, grandes ailes. Il s'est posé là, entre ses pattes, il avait un morceau de pain, il lui a donné, il lui a dit « Regarde, je t'apporte du pain et tous les jours, je t'apporterai du pain comme ça. » Tu ne mourras pas de faim. Et c'est ce qu'il a fait. Tous les jours, le corbeau venait et il avait entre les pattes un morceau de pain que Jean mangeait doucement, précieusement. Ça a duré des jours, des semaines, des mois et même des années. Certains ont dit que ça a duré 7 ans. Un jour, le corbeau, il est arrivé. Il n'avait rien dans ses pattes, même pas un bout de pain. Il s'est posé là, à côté de Jean, et il lui a dit « Regarde, ce que j'ai à te dire, c'est important. T'as bien aimé Amélie. Elle se marie aujourd'hui. Elle se marie avec Bertrand. » Elle a fini par dire oui. Tout le monde lui disait « Mais il faut te marier, Amélie, il faut te marier, ton Jean, il ne reviendra plus. » Alors elle a dit oui. « Mais si tu veux, je t'emmène là-bas. À une condition. Tu sais, tu vas te marier avec elle sûrement. C'est à toi de te marier avec elle. Vous allez avoir des enfants. Votre premier enfant, ce sera un magnifique garçon. Eh bien, ce garçon-là, quand il aura 3 mois, je viendrai te voir et tu devras m'en donner la moitié. » Jean a blêmi. Et puis, il est monté sur le dos du corbeau et s'est bien accroché à son cou. Ils sont partis, le corbeau a étalé ses grandes ailes et il l'a emmené au village où habitaient Amélie et ses parents. Quand il est arrivé là-bas, que le corbeau l'a déposé, il était devant la maison et juste au même moment, le père d'Amélie est sorti. Alors, il l'a regardé. ce mendiant, ce va-nu-pied, à peine vêtu, tout maigre et tout barbu. Il a regardé encore et encore et il s'est approché. Et puis tout d'un coup, il a dit « C'est toi, Jean ? C'est toi ?» Alors Jean, il est tombé dans ses bras et lui a dit « Oui, oui, c'est moi, Jean !» Et il lui a tout raconté. Il lui a raconté Bertrand et comment il l'avait assassiné, comment il l'avait poussé du haut de la falaise. Alors, le père d'Amélie, il a fait signe à un garçon qui passait par là, il lui a dit « Va vite chercher les gendarmes. » Bertrand arrivait à l'autre bout du chemin, mais quand il est arrivé près de la maison, c'est les gendarmes qui l'ont accueilli. Ils l'ont emmené à la ville, ils l'ont mis en prison, et on n'en a plus jamais entendu parler. Alors, ce jour-là, puisque le mariage était prêt, on a trouvé un costume pour Jean. Et puis, c'est lui qui a épousé Amélie. Amélie, elle a poussé des cris et elle pleurait et elle poussait des cris. Mais cette fois, c'était de joie. Ils ont fait une grande fête. Et quelques mois plus tard, un magnifique garçon leur est né. Il était beau. Le visage de Jean était quelquefois un peu triste, mais Amélie ne s'inquiétait pas. Un jour, quelques mois plus tard, quand l'enfant avait 3 mois, Amélie était partie au marché et Jean était resté seul avec son fils. Le bébé s'était endormi là sur le tapis et Jean le regardait. À ce moment-là, il a entendu frapper. Toc, 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 toc. C'était à la fenêtre. Jean n'avait pas besoin de regarder, il savait qui c'était. Il a tourné la tête, il a été ouvrir la fenêtre, c'était le corbeau qui arrivait. Il est rentré dans la pièce, il s'est posé sur le dos d'une chaise, il a regardé Jean, il lui a dit « Jean, tu sais ce que je viens chercher ? Je viens chercher mon dû, tu te souviens, la moitié ?» Alors Jean est devenu tout pâle, tout pâle, tout blanc. Il s'est levé, il a été vers la cuisine, il a ouvert un tiroir, il a pris un énorme couteau, il est revenu, les yeux presque fermés, il s'est agenouillé près de son fils qui dormait toujours, il a mis la main gauche sur le bébé et puis il a levé la main droite avec ce grand couteau. Alors il a entendu « Arrête Jean, arrête-toi ! » Il a ouvert les yeux et à ce moment-là, il a vu le corbeau qui était entre le bébé et le couteau. Le corbeau a levé la tête et il a dit « Jean, arrête-toi. Ta dette, tu me l'as payée. » Tu sais, le jeune homme qui était sur son tas de fumier, quand tu es arrivé dans un village avant de venir ici pour travailler, eh bien ce jeune homme, c'était moi. Alors tu vois ta dette, elle est payée depuis longtemps. Il est allé vers la fenêtre, il s'est mis sur le rebord, il a ouvert ses grandes, grandes ailes, il est parti. Et Jean ne l'a plus jamais revu. À ce moment-là, Amélie est rentrée du marché. Elle était toute souriante et Jean l'a prise dans ses bras. Ils se sont mis tout près de leur bébé, ils l'ont regardée. Il dormait encore, mais comme s'il les avait sentis, il s'est réveillé, il les a regardés, il leur a souri. Alors Jean a pris le bébé dans ses bras et il l'a serré tout fort. Il l'a embrassé et Amélie est venue aussi près de lui. Ils ont vécu comme ça, de nombreuses années, heureux. Peut-être même qu'ils ont eu beaucoup d'autres enfants. Thank you. Dans un village, loin d'ici, il y avait deux vieillards. C'étaient deux jumeaux. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Il y en avait un seulement qui avait un gros bouton sur la joue droite, et l'autre c'était sur la joue gauche. Le vieillard qui avait un bouton sur la joue droite, il essayait de l'enlever depuis longtemps, il avait tout essayé. Il avait essayé des crèmes, des pommades, des plantes, il avait été voir une sorcière, il avait été voir plein de gens dont on lui avait parlé pour essayer d'enlever ce bouton. Impossible. Il n'y pensait presque plus, mais un soir, où il rentrait d'aller voir un ami, il est passé par la forêt et il s'est mis à tomber des cordes. Il pleuvait, pleuvait et pleuvait, il y avait un orage. Il a voulu se mettre à l'abri et il a trouvé un arbre creux. Il est entré dans cet arbre creux, il s'est faufilé et il est arrivé dans une grande pièce où il y avait des lutins qui dansaient. Mais ils dansaient n'importe comment. Et ils sautaient, mais ils n'étaient jamais ensemble. Et la musique était fausse. C'était terrible. Alors il s'est approché d'un lutin qui était un peu plus grand, qui avait une couronne et qui avait l'air d'être le roi de ces lutins-là. Et puis, il lui a dit, « Ben, moi, je peux vous montrer comment on danse si vous voulez. J'aime ça, il paraît que je danse pas mal. » Le roi des lutins a dit, « D'accord, d'accord. Mais si tu ne me plais pas, on verra. » Le vieillard a eu un peu peur, mais il s'y est mis et il a dansé très joliment. Les autres lutins essayaient de le suivre, ils essayaient de l'imiter et ils avaient un peu de mal. Mais quand même, ils avaient fait des progrès. Alors, quand l'aube est arrivée et que le vieillard pensait repartir chez lui, il a été voir le roi des lutins et celui-ci lui a dit « Écoute, je suis très content de toi. Qu'est-ce que je pourrais te donner pour te faire plaisir, pour te remercier ?» Le vieillard a dit « Ben, je ne sais pas trop, je ne manque de rien. Ah, si, si vous pouviez me retirer ce bouton que j'ai là sur la joue. Franchement, ça me ferait du bien, j'ai tout essayé, j'ai pas réussi. » Alors le roi des lutins lui a dit « D'accord. » Le vieillard est reparti. Il a retrouvé son chemin pour rentrer au village, il est rentré chez lui. Il s'est précipité devant un miroir et là, il a vu qu'il n'avait plus de bouton sur la joue droite. Et il était content. Alors il est allé voir son frère jumeau. Son frère jumeau, il était aussi désagréable que l'autre était gentil. Il ronchonnait tout le temps, il se plaignait de tout et il disait du mal de tous ceux qui passaient près de chez lui et même de tous ceux qui passaient pas près de chez lui. De toute façon, il était jamais content. Mais quand son frère lui a raconté comment il n'avait plus de bouton sur la joue, il s'est dit « Ouah, faut que j'y aille. Moi aussi, j'ai ce bouton sur la joue gauche, là. » Alors, au soir tombant, il est parti vers la forêt. Il avait bien écouté ce que son frère lui avait dit. Il lui avait dit où était l'arbre creux, et il n'a pas eu trop de mal à le trouver. Il s'est faufilé à l'intérieur et il a trouvé la grande pièce avec les lutins qui dansaient, mais qui dansaient mal et la musique était fausse et ils sautaient n'importe comment, ils n'étaient jamais ensemble. C'était une catastrophe. Alors il a été voir le roi des lutins, il lui a dit « Écoutez, moi je peux essayer de danser, vous allez voir, je pense que ce sera mieux. » Le roi des lutins lui a dit « D'accord, mais fais attention, si ça ne me plaît pas ce que tu fais, je ne te dis pas ce que tu risques. » Alors le vieillard ronchon s'est mis à danser, il a dansé mal. En fait, il savait pas danser. Autant son frère était léger et dansait bien, autant lui, il était lourd. Et puis, il connaissait pas le rythme. On aurait dit qu'il n'entendait même pas la musique. Alors, le roi des lutins l'a interrompu. Il s'est fâché. Il lui a dit « Arrête tout de suite. Je ne veux plus te voir. » « Mais attends, j'ai un petit cadeau à te faire. » Et quand le vieillard est sorti de l'arbre creux et qu'il est rentré chez lui, il n'a pas eu besoin de se regarder dans une glace. Non seulement il avait gardé son bouton sur la joue gauche, mais il en avait un autre sur la joue droite. Le roi des lutins lui avait fait cadeau du bouton de son frère. Il est rentré chez lui la tête basse et pendant tout un grand moment, il n'est pas sorti de chez lui tellement il avait honte.